errant, en proie aux angoisses et aux regrets, sur la mer innombrable qui efface tout souvenir, dernier ou presque parmi les grands guerriers de l'Iliade, à n'avoir pas perdu la vie sous les murailles d'Ilion ou lors de son retour dans sa patrie, Ulysse a cessé d'être le héros glorieux dont l'astuce et la sagacité ont permis aux Achéens de remporter la victoire. Livré aux éléments déchaînés, aux monstres et aux prodiges par le courroux du dieu des océans, sans cesse sur le point d'être englouti par une mort impersonnelle, il a tout perdu, sa terre, ses parents, son passé, sa réputation et jusqu'à son propre nom. Cherchant à sauver sa vie et celle de ses compagnons, il ourdit son stratagème le plus célèbre. C'est tout naturellement qu'il songe à s'attribuer en guise de fausse identité celle qui est devenue en un sens son identité véritable, personne. C'est ainsi que commence le livre passionnant que vient de publier Claude Romano, notre invité ce soir, qui publie ce livre intitulé « Être soi-même, une autre histoire de la philosophie ». Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique et nous avons pensé à notre amie Camille Toudy.
J'ai tout dit, tout, tout dit, dit, tout dit, tout dit. J'ai terminé ma phrase, tout dit, tout dit, tout dit. J'ai tout dit, tout, tout dit, dit, tout dit, tout dit. C'est gravé dans le marbre, tout dit, tout dit, tout dit. Hey, tout dit, si, tout dit, ah, tout dit, sœur, tout dit, tout dit. Tu veux que l'on se parle, tout dit. Oh, ma sœur Hildegarde, tout dit, tout dit. Tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit, des oiseaux dans les arbres, tout dit, tout dit, tout dit, j'ai, tout dit, dit, tout dit, tout dit, j'ai fui à la hussarde, tout dit, tout dit, tout dit, j'ai, tout dit, dit, tout dit, tout dit, et les rats m'ont suivi, tout dit, tout dit, tout dit, eh, tout dit, si, tout dit, ma, tout dit, sœur, tout dit, tu as peur pour ma vie, tout dit, oh, ma sœur, il ne garde, tout dit, je, suis, le, bruit, tout dit, de la pluie dans les arbres, tout dit, j'ai, j'ai rompu le charme, tout dit, tout dit, tout dit, j'ai tout dit. Maintenant je vous regarde, tout dit, tout dit, tout dit, hey, tout dit, si, tout dit, ah, tout dit, sœur, tout dit, tout dit, tu veux sécher mes larmes, tout dit, oh, ma sœur, il te garde, tout dit, tout dit, tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit, tout dit, du vent dans les arbres, tout dit, tout dit, tout dit, eh, tout dit, si, tout dit, ma, tout dit, sœur, tout dit, tout dit, tu donnes un jour ton cœur, tout dit, oh, ma sœur, prends garde, tout dit, tout dit, tout dit, ne, tout dit, dit, tout dit, pas, tout dit, tout, tout dit, tout dit, où tu mourras d'ennui.
Allez-vous tout nous dire, Claude Romano ?
Je vais essayer.
Alors commençons par l'amour de la philosophie. Quand cela a-t-il commencé ?
Oh, l'amour de la philosophie, ça a commencé quand j'étais en terminale, probablement, et que j'ai découvert ce que c'était que la philosophie. Je me suis mis à en lire beaucoup, et jusque-là, je pensais que je serais plutôt écrivain, parce que bon, j'ai deux amours qui sont la philosophie et les lettres. Et quand j'ai fait de la philosophie, je me suis dit que peut-être je serais meilleur comme philosophe ou que ça me correspondrait plus.
Vous faites de la philosophie pour essayer d'élucider votre propre vie ?
Il y a toujours ça quand on fait de la philosophie. Il y a toujours cette dimension-là. À la fois, je pense qu'il y a cette dimension-là et il y a la dimension exactement opposée. C'est-à-dire, je fais aussi de la philosophie pour ne pas trop me préoccuper de ma propre vie. Mais les deux sont inséparables. J'ai toujours pensé que que les philosophes, très souvent, travaillaient sur des thèmes qui se situent à l'opposé de leur capacité existentielle, si je puis dire. Comme si ça les faisait progresser eux-mêmes. Alors c'est vrai pour moi, mais c'est vrai aussi pour des amis philosophes, j'ai souvent remarqué ça. Donc les deux choses sont indissociables en fait.
Vous avez publié de nombreux livres ayant trait à la vérité, à l'existence, à la phénoménologie, à la littérature aussi. Vous avez écrit un livre superbe sur William Faulkner. Vous êtes enseignant en ce moment de philosophie.
Oui, j'enseigne à la fois en France, à la Sorbonne, et j'enseigne aussi en Australie, à Melbourne.
Et alors, la philosophie a la même définition en Australie qu'ici ?
Ce qui est très différent, ce sont les méthodes pédagogiques. On n'enseigne pas du tout de la même manière. Ici, c'est toujours la culture du cours magistral, donc les étudiants sont très passifs et le prof monologue devant eux. Là-bas, on a des méthodes qui mettent en jeu beaucoup plus l'interaction avec les étudiants. Donc c'est des méthodes, en un sens, plus intéressantes. Je trouve qu'il faudrait que nous sortions un peu de ce cours magistral sacro-saint qui fige un peu l'enseignement.
Eh bien écoutez, c'est pas du tout mon cas. Moi j'aimerais bien avoir un cours magistral de vous ce soir en direct sur France Inter, car j'ai découvert votre livre, qui est un gros livre, Être soi-même, une autre histoire de la philosophie. Je l'ai lu d'un trait, parce que c'est une confrontation avec le sens propre de l'existence. Qu'est-ce que ça veut dire vivre? Qu'est-ce que ça veut dire être en accord avec soi? Qu'est-ce que ça veut dire porter un nom? Qu'est-ce que ça veut dire vouloir porter un masque et ne pas vouloir posséder le nom et être ce que l'on est dans le regard des autres? Bref, autant de questions que chacun de nous se pose dans différentes situations, qu'elles soient amoureuses, sociales, professionnelles, intimes, etc. Alors, j'ai commencé par la lecture de ce mythe d'Ulysse qui ouvre magnifiquement votre livre, Claude Romano. Vous vous appelez Claude Romano.
Ah oui, c'est bien
vous
mon nom.
Vous êtes Claude Romano.
C'est mon nom, comme Ulysse est celui d'Odysseus.
Ben oui, mais quand Ulysse revient, personne ne le reconnaît comme Ulysse. Il choisit donc de s'appeler personne. Quel chemin faudra-t-il pour qu'il redevienne Ulysse en personne ?
Et oui, il y a un très bel essai de Jean-Pierre Vernant qui s'appelle justement Ulysse en personne et qui déjà montre ce basculement qui est au centre de cette figure si magnifique d'Ulysse. C'est-à-dire que c'est à la fois l'homme de la métisse, hein, c'est-à-dire de la ruse, celui qui sait manier tous les stratagèmes, qui sait se dissimuler, qui sait se déguiser en mendiant pour entrer dans la cité de Troie. Et puis, en même temps, c'est celui qui, à plusieurs reprises, regagne son identité.
Il n'y a que son chien qu'il reconnaisse.
Ah oui, mais ça, c'est effectivement un des passages les plus beaux. C'est-à-dire que les hommes, ne le reconnaissent pas. Son chien le reconnaît et il s'effondre et il meurt aussitôt. Oui. Alors Ulysse, c'est ça, c'est ce basculement de l'être sur le mode de la fausseté à l'être sur le mode de la vérité. Et donc c'est toute la pérégrination d'Ulysse, c'est en fait un retour bien sûr à Ithaque, à l'île natale. Mais c'est aussi, alors on pourrait dire aussi, c'est une réintégration de son statut d'époux, de roi, mais c'est plus fondamentalement encore un retour à soi. Et donc il faut qu'Ulysse en passe par cette dépersonnalisation sur la mer qui ne garde pas le souvenir des noms et qui, si on y périt, on s'abîme et donc on perd son nom, on perd son identité, on a la mort la moins glorieuse qui soit. Et en même temps, donc, il a besoin d'en passer par tout ce périple pour se regagner d'une certaine manière lui-même. Et Ulysse sera interprété par les philosophes comme une des premières figures du philosophe, c'est-à-dire de celui qui est capable d'une forme d'enkratéia, c'est-à-dire de maîtrise de soi, mais aussi d'accord avec soi, puisque c'est une question qui est fondamentale dans toute la philosophie grecque, en fait, cette question de l'existence en accord avec soi-même.
Mais ce qui est incroyable, Claude Romano, c'est que vous nous expliquez dans votre livre que le soi, l'individualité, n'existait pas dans la cité grecque. Ça ne les intéressait pas d'être des individus à part entière.
Ah bien sûr, bien sûr. Nous sommes...
Alors que nous, nous vivons dans une époque d'hyper-narcissisme et d'individualisme.
Ah oui, nous vivons dans l'époque la plus extrême de l'individualisme. Il n'y a qu'à voir même les gilets jaunes. Ce sont des individus qui défilent et qui ne veulent surtout pas rentrer dans une organisation quelconque ou avoir un représentant quelconque. Oui, mais alors la Grèce, effectivement, ignore totalement l'individualisme. D'ailleurs, si on regarde même la langue grecque, bon, il y a un mot pour dire l'individu, c'est atomone. Mais ça, c'est l'individu au sens où une table, une chaise sont des individus, c'est-à-dire sont des choses unes. Mais les mots qui désignent l'individualité sont plutôt des mots qui sont péjoratifs, comme le mot idios, qui a donné idiot, et qui montre que celui qui veut se placer en quelque sorte à l'écart de la communauté humaine est quelqu'un d'un peu fêlé, ou quelqu'un d'idiot, ou quelqu'un peut-être qui est frappé d'un excès d'hubris, enfin d'hubris, hein, d'excès, de démesure.
Donc ça veut dire que dans la cité grecque, c'était l'idée de communauté des hommes qui prévalait sur celle de l'individualité de chaque homme par rapport à l'autre.
Oui, disons que de toute façon, toutes les cultures, aucune culture avant notre époque n'a été véritablement une culture individualiste. Donc l'individualisme est apparu très progressivement en Occident. Et je pense que le début d'une conception dans laquelle l'originalité individuelle devient une sorte de valeur absolue, c'est probablement le XVIIIe siècle. Avant ça, je dirais que toutes les cultures sont communautaire, si vous voulez. C'est-à-dire que l'individu ne peut exister que s'il prend place à l'intérieur de la société et s'il trouve sa place.
Qui êtes-vous, Claude Romano?
Oh,
c'est la question
oui,
que vous
oui,
nous posez.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je ne sais pas si je peux répondre en une phrase. Qui suis-je?
C'est une question qu'on n'oserait pas, on n'aurait pas osé poser il y a 40 ans ou il y a 50 ans. Maintenant, on peut la poser dès qu'on rencontre quelqu'un. On rencontre quelqu'un dans un bistrot et très vite on peut lui poser cette question. Elle ne paraît pas obscène. Or, elle aurait paru obscène il y a quelque temps. Là aussi, les temps ont changé.
Certainement. Il y a un film dont j'ai oublié le titre dans lequel on pose cette question à un personnage et alors il commence en répondant « Eh bien, je suis, je sais plus, plombier. » Enfin, il donne son métier. « Ah non, mais c'est pas ce qu'on vous demandait. On veut savoir qui vous êtes. » Alors il dit « Je suis né à tel endroit. » « Ah non, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on voudrait savoir qui vous êtes. » À la fin, cette question ne peut pas donner lieu à une réponse.
Alors, qui êtes-vous? Sportif?
Oh non, pas spécialement sportif. Non,
un télo?
Un peu un télo, oui, forcément. Je suis... je peux vous donner
bon
quelques
vivant.
Éléments biographiques, si
non,
vous
mais
voulez.
Ça veut dire quoi, l'injonction qu'on a de demander à un individu d'être lui, c'est-à-dire d'être soi?
Alors, la question que vous posez, en fait, est une question qui porte aussi sur que veut dire être soi-même. On pourrait comprendre que c'est une injonction. On entend ça dans la publicité, dans des tas de publicités d'ailleurs, et puis dans, un peu partout dans notre monde.
Soyez vous-même.
Soyez vous-même. Alors, soyez vous-même, ça pourrait s'interpréter comme voulant dire soyez l'individu que vous êtes. Mais ça n'a pas de sens, parce qu'on est l'individu qu'on est, quoi qu'on fasse. Donc ça peut pas être un idéal, une norme, ou quoi que ce soit de ce genre. Alors, les linguistes ont une analyse beaucoup plus intéressante de cette expression. Ils disent que, je pense par exemple à Lucien Ténière, un grand linguiste structuraliste, qui disait que cette expression devait s'interpréter plutôt comme, soi-même, vous-même, n'a pas le sens d'un pronom, disait-il, mais d'un attribut, bizarrement. C'est-à-dire que c'est comme si le verbe devenait le verbe devenir soi-même, ou redevenir soi-même, ou être soi-même, et non plus le verbe être suivi d'un pronom.
Donc on est fait, plusieurs soi-même.
Non, en fait, ce qu'il voulait suggérer, c'est que ce verbe maintenant désigne en fait non plus l'identité à nous-mêmes, mais la conformité à nous-mêmes ou l'adéquation à nous-mêmes, si vous voulez. C'est autre chose.
Et l'adéquation à nous-mêmes peut être aussi l'adéquation à la conformité sociale. C'est-à-dire, chacun de nous doit être semblable à notre voisin.
Alors, effectivement, l'authenticité telle qu'elle s'est définie à partir de Rousseau, c'est-à-dire toute la phase qui nous concerne de plus près de l'avènement de l'authenticité, disons moderne, a défini l'authenticité par contraste d'avec la norme, la convenance, la règle sociale. Rousseau, c'est très net, quand il dit qu'il faut être soi-même, il dit toujours qu'il faut être soi-même contre les sirènes du conformisme. Alors le mot conformisme n'existe pas au XVIIIe siècle, il est plus récent, mais c'est ça qu'il veut dire, contre le troupeau, contre tout ce qui nous aliène d'une certaine manière. Mais ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est que ça n'est que la dernière phase justement de cette histoire, c'est-à-dire que c'est la phase de l'individualisme exacerbé dans laquelle se définir soi-même, essayer d'atteindre une forme d'adhésion à notre être, passe par le fait de se distinguer des autres. Mais si on regarde cette histoire dans la longue durée, justement, on s'aperçoit qu'il y a d'autres conceptions très différentes, et notamment des conceptions qui disent au contraire que on n'est en plein accord avec ce qu'on est que lorsqu'on est aussi parfaitement socialisé, lorsqu'on est parfaitement intégré à une société. Et donc, il n'y a plus ici une opposition entre être soi et être comme un autre, être aliéné ou exister sur le mode du conformisme, mais au contraire, les deux choses se rejoignent complètement.
Alors, comment être soi, comment adhérer à son soi le plus intime? Vous l'avez dit, et d'ailleurs un chapitre lui est consacré. Le prince de cet éloge de soi, c'est évidemment Jean-Jacques Rousseau, mais figurez-vous que Alina, nous n'avons pas trouvé la voix de Jean-Jacques Rousseau, mais nous avons trouvé la voix, par contre, de Jean-Paul Sartre à propos du fait de parler de soi. S'il y a bien un intellectuel et un philosophe qui ont beaucoup parlé du soi, du moi, et de qu'est-ce que ça veut dire être soi pour lui, c'est bien Jean-Paul, aussi bien dans ses écrits littéraires que dans sa philosophie. C'est une archivina qui est non datée, le mystère s'accroît.
Personnellement, j'estime d'abord que parler de soi n'est pas présomptueux, parce que n'importe qui devrait pouvoir parler de soi devant des scénographes ou des intervieweurs et dire le plus profond de soi. Selon moi, une erreur des rapports entre les gens, c'est que chacun conserve, par rapport à l'autre, quelque chose de caché, de secret. Pas nécessairement pour tous, mais pour celui-là à qui il parle en ce moment. Alors ça me paraît une erreur d'où peut-être on sortira un jour. Je pense que la transparence doit se substituer au secret. Par conséquent, je vois, et j'imagine assez bien, le jour où deux hommes n'auront plus aucun secret l'un pour l'autre, parce qu'ils n'en auront plus pour personne. Parce que la vie subjective, aussi bien que la vie objective, sera offerte, donnée. Je pense que il est impossible d'admettre que nous livrons notre corps comme nous le livrons et que nous cachions nos idées. Donné que pour moi, entre le corps et les idées, il n'y a pas de différence de nature. Nous livrons notre corps à tout le monde. Je ne veux pas dire du point de vue sexuel, mais nous le livrons par le regard, par les contacts, nous le livrons à tout le monde. Vous me livrez votre corps, je vous livre le mien.
Nous venons d'entendre les propos de Jean-Paul Sartre. Je pense que c'est dans ce long entretien magnifique donné à Michel Contat. Et c'est vrai que la voix de Jean-Paul Sartre résonne encore aujourd'hui avec une très grande profondeur. Et en l'écoutant, je me disais, mais il y a cette expression en français qui dit « son quant à soi ». Effectivement, garder son quant à soi, c'est ne pas se livrer. Et Jean-Paul Sartre proposait donc une ère de transparence de tout se dire. Et vous, qu'en pensez-vous, Claude Romano ?
Je suis frappé par le fait que Sartre, qui a l'air ici, enfin qui probablement ici
semble très sincère.
Oui, absolument. Mais qui s'oppose à un vieil adage janséniste qui consiste à dire qu'il faut cacher et même qu'il faut cacher le moi et qu'il faut que le moi est haïssable et qu'il ne faut surtout pas s'exprimer à la première personne. Il reprochait à Montaigne, les jansénistes, de s'exprimer à la première personne. Donc c'est à la fois anti-janséniste et c'est finalement très rousseauiste qu'il dit, parce que chez Rousseau, cet idéal de transparence, il est partout. tout. C'est d'abord la transparence de celui qui s'exprime, de celui qui écrit les confessions. Je voudrais rendre mon cœur transparent au lecteur, dit-il. Et puis, c'est un idéal de transparence sociale aussi, puisqu'il y a toute une rêverie chez Rousseau sur le vrai théâtre républicain qui ne devrait plus se dérouler dans des antres obscurs, mais qui devrait se dérouler sur le mode de la fête du village où il n'y a plus d'acteurs, plus de séparation entre les acteurs et les spectateurs, et où chacun se mire en quelque sorte dans le regard de l'autre. Donc cet idéal de transparence de Sartre me frappe, parce qu'il rejoint effectivement, mais Sartre fait partie de toute cette lignée de penseurs de l'authenticité, comme Rousseau, comme Heidegger, comme Kierkegaard, bien que Kierkegaard soit en fait à la fois aussi un penseur qui a critiqué l'authenticité. Mais Sartre fait partie de cette lignée, effectivement, rousseauiste, on peut dire.
Mais cet idéal de transparence peut paraître absolument effrayant.
Moi, je le trouve assez effrayant, oui. Je trouve que l'obscurité est importante aussi. Et d'abord, qu'est-ce que c'est que vouloir se rendre complètement transparent? C'est un idéal probablement déjà inaccessible. Et puis, est-ce même souhaitable? Ce qui est important, moi, si vous voulez, la thèse du livre, si vous voulez la résumer en un mot, c'est que la seule chance que l'on a d'adhérer à soi, d'être au plus près de soi, de se trouver soi-même, c'est de cesser de vouloir le faire. C'est-à-dire que, précisément, ce que je reproche aux pensées de l'authenticité moderne, c'est deux choses. C'est d'abord d'être trop individualiste, c'est-à-dire de concevoir effectivement le fait de se trouver soi-même comme un arrachement à un espace de dissimulation ou d'aliénation qui serait la société. Et puis, c'est d'autre part de mettre toujours l'accent sur la volonté, sur le choix, sur l'autodétermination. Alors qu'en réalité, se trouver soi-même, ça se fait de mille et une manières. Et souvent, c'est lorsque nous souhaitons le moins y parvenir que nous découvrons certains aspects de nous importants ou que nous existons sur le mode d'une forme d'adéquation à nous-mêmes.
Alors, être soi-même, c'est aussi un chemin, c'est aussi un processus. C'est un mouvement perpétuel du corps, comme vient de le dire Sartre, mais aussi de l'âme. Et cela a à voir avec la responsabilité, cela a à voir avec l'éthique aussi, vous le soulignez sans cesse. Et évidemment, il y a des philosophes contemporains qui se sont arrimés à cette question ô combien importante dans nos vies quotidiennes. Et parmi eux, Paul Ricoeur. Paul Ricoeur que vous citez beaucoup, Claude Romano dans votre livre. Paul Ricoeur, que je vous propose d'écouter. Il avait écrit un livre cardinal sur ce sujet, qui avait d'ailleurs eu beaucoup de succès, qui s'intitulait « Soi-même comme un autre », qui sonne comme une injonction hein, morale, « Soi-même comme un autre ». Nous allons l'écouter parler au moment de la parution de cet ouvrage. C'est une archive INA de 1990.
En mettant l'éthique avant la morale, je veux dire qu'il y a précisément quelque chose qui précède l'obligation, l'interdiction. Et ce quelque chose, c'est le désir d'accomplissement, le souhait de vivre bien avec et pour les autres dans des institutions justes. Mais ce que j'ai appelé tout à l'heure le désir profond de vie accomplie est aussi toujours mis en déroute par un désir plus court, alors de satisfaction immédiate, et où alors l'autre devient mon ennemi, parce qu'il est en travers de mon chemin. Et là, j'entre dans des rapports non plus de coexistence, de collaboration, mais conflictuels. Alors, c'est pourquoi nous ne pouvons pas rester dans l'éthique, qu'il faut passer à la morale. Au plan moral, j'ai essentiellement des interdictions. Deux interdictions les plus constamment violées. Tu ne tueras pas et tu ne mentiras pas. Mais on a toujours su qu'il ne fallait pas tuer et on a toujours tué. Et donc, la morale se heurte alors à ce que l'on appelle le désir court et immédiat, n'est-ce pas, de la satisfaction aux dépens des autres, s'il le faut.
Vous êtes un enfant de Paul Ricoeur, Claude Romano?
Oui, c'est un auteur important pour moi, et particulièrement dans ce livre, puisque d'une certaine façon, j'essaie d'explorer de manière historique une intuition très forte de Ricoeur dans ce livre, justement, Soi-même comme un autre, qui est l'intuition selon laquelle il y a à côté de l'ego, des égologies, ou du moi, si vous voulez, qui est le concept le plus souvent utilisé par les philosophes, il y a un autre concept que Ricoeur pense plus intéressant, et je suis d'accord avec lui, qui est ce qu'il appelle l'ipséité. Alors l'ipséité, on pourrait dire simplement l'être soi-même. Hein, ipsé, ça vient du latin, en personne, donc ça veut dire l'existence en personne, ça veut dire l'existence dans une forme de vérité. Et donc, d'une certaine façon, effectivement, j'essaie d'examiner cette question de manière diachronique, de manière historique, que Ricoeur analyse, lui, plutôt de manière synchronique, disons, et dans une conception de l'ipséité.
Mais on peut remarquer, Claude Romano, que dans l'histoire des mentalités, depuis, disons, la fin des années 60, en France particulièrement, mais aussi en Europe, cette volonté d'être soi-même est devenue une sorte de slogan, une sorte de méthode de vie, une sorte d'injonction complètement ressassée. Et vous, bizarrement, à l'intérieur de ce livre, vous essayez de comprendre la naissance de ce mouvement qui nous atteint tous et qui nous atteint tous encore aujourd'hui, au moment où nous parlons. Vous le faites peut-être remonter à mai 68 ?
Oui, enfin, disons qu'on l'associe à un aspect important de mai 68.
C'est-à-dire quoi? Le désir de s'accomplir soi-même,
oui,
de vivre
exactement.
Dans un monde hédoniste.
Alors, l'hédonisme, moi, si vous voulez, mai 68, effectivement, c'est une sorte de, comment dire, de manifestation éclatante de ce désir-là, d'accomplissement personnel, d'épanouissement personnel, qui a été, c'est vrai, réprimé pendant très longtemps. Mais je dirais, il y a deux interprétations de ce phénomène. Il y a l'interprétation de gauche, l'interprétation de droite, pour faire vite. L'interprétation de gauche consiste à y voir effectivement un mouvement d'émancipation. Et l'interprétation de droite consiste au contraire à souligner les impasses, les dérives, à leur hédonisme, comme vous disiez. On a pu parler de me generation, hein, refus des relations humaines, refus des liens humains, refus de la société, enfermement sur soi, etc., etc. Alors, moi, j'essaie dans ce livre juste de prendre un certain recul par rapport à ce débat que je trouve un peu stérile. Je crois évidemment qu'il y a quelque chose de précieux dans cet idéal, sinon j'aurais pas écrit 800 pages sur le sujet. Et par exemple, cet idéal, il est lié à des préoccupations féministes. Hein, j'entendais l'autre jour Glenn Close, au moment de recevoir son Oscar, qui dédiait cet Oscar à sa mère en disant « Voilà, ma mère a toujours vécu pour les autres dans son foyer, etc. » Et à la fin de sa vie, elle m'a dit « Bah écoute, je sais pas si ça valait la peine de vivre de cette manière, toi au moins, etc. » Et effectivement, c'est comment ne pas voir l'importance de cette exigence que nous avons d'épanouissement. Mais d'un autre côté, il faut aussi examiner, et c'est ce que j'essaie de faire dans ce livre, comment nous nous sommes enfermés dans certaines impasses, c'est-à-dire comment l'individualisme a pris le pas et a finalement conduit à, d'une certaine manière, à l'opposé de ce mouvement initial. Parce que si vous êtes obsédé par la nécessité de vous distinguer des autres, de vous arracher au troupeau, de vivre de manière absolument originale.
Ça, c'est la culture du toujours plus.
Voilà. Le résultat de ça, c'est qu'en fait, vous vivez exactement comme tout le monde. C'est-à-dire que vous retrouvez toutes les normes que vous pensiez avoir laissées derrière vous. Et donc, en réalité, on ne sort pas d'une sorte de cercle vicieux. Donc, moi, mon enquête historique, elle consistait à se demander est-ce que il y a des formes de cet idéal, puisque cet idéal est en fait très ancien dans la philosophie, pas sous sa forme individualiste contemporaine. Est-ce qu'il y a des formes de cet idéal qui constituent des sortes d'alternatives philosophiques pour nous, qui nous devraient nous inspirer pour pas du tout abandonner complètement cet aspect de nos vies qui est essentiel. Je crois que personne aujourd'hui n'élèverait des enfants, par exemple, en leur disant « Mais non, ne fais pas ce que tu veux, ne cherche pas ce que tu désires réellement, fais comme ton père, prends le même métier. » Bon, ça n'a pas de sens, évidemment. Donc, sans abandonner ce que cet idéal est de fort, d'essayer de voir comment on peut sortir de ces impasses individualistes, disons.
C'est peut-être dans l'abandon du soi qu'on peut devenir véritablement soi. En tout cas, c'est une des questions que pose votre livre très intrigant, Claude Romano. Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le rondo allegro vivace de la sonate pour violoncelle numéro 1 en fa majeur, opus 5 de Beethoven, dans l'interprétation évidemment de Rostropovitch et de Richter. Quand vous lisez Platon, Aristote, Kierkegaard, Heidegger, Rousseau, Montaigne, vous écoutez de la musique, Claude Romano ?
Oui, ça m'arrive souvent, oui, bien sûr.
La musique constitue une des colonnes vertébrales de l'approche de la vérité. Et la vérité, vous en parlez beaucoup à l'intérieur de ce livre. Vous faites observer que la vérité existe, mais la fausseté aussi. Et nous vivons aujourd'hui dans une époque où la post-vérité existe encore plus que la vérité, puisque ce concept a été introduit dans le fameux dictionnaire d'Oxford il y a, je crois, 2 ans et demi maintenant. Et donc, qu'en est-il de la vérité? Elle s'est perdue en chemin, on ne la retrouvera jamais? Est-ce que c'est un concept encore opérant auquel nous pouvons croire et adhérer?
Bah, ce qui s'est beaucoup perdu, c'est ceux qui se sont perdus, plutôt, ce sont les philosophes qui ont pensé qu'ils pouvaient se passer de la notion de vérité. Il y a eu toute une tendance qui n'est pas d'ailleurs tant celle de Nietzsche lui-même que, disons, des Nietzschéens ou des post-Nietzschéens, notamment français. Je pense à des auteurs comme Foucault, comme Deleuze, comme Lyotard. Beaucoup d'auteurs français ont pensé dans les années 60-70 qu'il fallait absolument dénoncer derrière la vérité des manipulations, des forces, un pouvoir violent, des rapports de force, etc. En réalité, le problème de ces critiques, c'est qu'elles prennent toujours pour modèle de la vérité des vérités très difficiles à atteindre, comme, je ne sais pas moi, la théorie de la relativité d'Einstein. Alors évidemment, si on pense à la théorie de la relativité d'Einstein, effectivement, est-ce qu'on a atteint la vérité ou non? C'est bien difficile de répondre à cette question. Mais il y a énormément de vérités extrêmement élémentaires, banales, comme le fait que je suis en ce moment dans ce studio en train de vous parler, par exemple. Et toutes ces vérités-là sont des vérités de manière incontestable. Donc, le concept de vérité est un concept dont, je pense, la philosophie ne peut absolument pas se passer et dont effectivement, j'essaie de retracer dans ce livre, disons, une dimension, puisque c'est la dimension qui consiste dans l'idée qu'il y a une vérité personnelle. Il y a une vérité que l'on fait, non pas seulement en parole, mais dans la vie elle-même. C'est une idée très très ancienne qu'on trouve déjà chez Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, il y a un passage où Aristote dit que l'homme vrai, ou l'homme qui est lui-même, c'est otekastos en grec, c'est le mot qui veut dire lui-même, cet homme-là fait la vérité non seulement en parole, mais dans sa vie elle-même. Voilà. Alors, c'est cette idée, au fond, de la vérité dans la vie que j'essaie d'exposer, de retracer dans ce livre.
Mais on voit bien que vous êtes extrêmement sincère dans votre démarche de loyauté vis-à-vis des lecteurs, et vis-à-vis de votre quête philosophique de la vérité, nous avons demandé au philosophe Martin Rueff, qui lui aussi s'intéresse depuis très longtemps et à la littérature et à la philosophie, et qui a ce souci de la vérité, de nous dire ce qu'il pense de vos travaux. Écoutez-le.
Je connais l'œuvre de Claude Romano depuis ses débuts, c'est-à-dire depuis la publication de l'événement et le monde en 1998, et j'ai eu la chance, je peux dire, de voir évoluer une des personnalités philosophiques françaises les plus remarquables de sa génération. Et il me semble qu'on a affaire avec lui à une œuvre philosophique de premier plan que je crois pouvoir distinguer par trois qualités premières. D'abord la profondeur, par la qualité de son questionnement. Quand Claude Romano s'empare d'une question, qu'il s'agisse des émotions, qu'il s'agisse de l'identité personnelle, qu'il s'agisse des couleurs. La deuxième caractéristique de sa philosophie, c'est la rigueur de sa méthode. Même s'il dit souvent qu'il n'y a pas de méthodologie philosophique, hein, il veut s'embarrasser, et c'est aussi ça qui rend sa prose si abordable. Il ne veut pas s'embarrasser, si vous voulez, d'échafaudages, de nomenclature. Et puis, c'est un philosophe d'une grande clarté. Voilà, c'est quelqu'un qui a une plume philosophique, une qualité d'exposition tout à fait remarquable. Il me fait souvent penser à cette phrase de Nietzsche, dont il inverse le contenu, puisque Nietzsche se moque des gens qui croient qu'un fleuve est profond parce qu'il n'en voit pas le fond, et il dit c'est tout simplement qu'il est boueux. Eh bien, Claude Romano, il est profond en étant à la fois rigoureux et clair. Alors, en fait, le livre qu'il propose à votre examen, à votre discussion, Laure, ce soir, Être soi-même, une magnifique reconstruction, depuis les sources antiques, de la notion d'authenticité. Être authentique et être naturel, c'est pas être sincère, justement. Et le naturel, il le définit dans un épilogue assez drôle, hein, puisqu'il dit au bout de 700 pages du livre, mais au fait, le naturel, ça existe, on peut le trouver. Donc, alors, si j'avais une question à poser à Claude Romano, ce soir, je lui adressais de la manière suivante. Dans cet ouvrage qui regorge d'exemples littéraires très beaux, Claude Romano donne, alors qu'il en est très coutumier, peu d'exemples dans la vie artistique et dans la vie sportive. Claude Manot est quelqu'un qui connaît bien les sportifs, qui connaît très bien la musique et la peinture. Et j'aimerais bien qu'il donne au public des exemples de non seulement de musiciens et de peintres naturels, mais aussi d'un sportif dont il estimerait que le jeu est naturel. Voilà la question qui n'est pas simplement futile que je voulais poser à Claude Romano en redisant l'importance que son parcours a pour la philosophie française et l'importance que ce livre aura pour toutes sortes de questions.
Voilà des questions difficiles, Claude Romano. Qui est naturel dans l'histoire de... dans l'histoire artistique et sportive de notre propre pays?
Alors peut-être qu'il faut d'abord dire un mot de ce qu'est le naturel. Il y a toute une tradition, effectivement, qui commence avec Montaigne et qui s'étend jusqu'aux moralistes classiques, en particulier La Bruyère, La Rochefoucauld, qui consiste effectivement à mettre en avant comme qualité le naturel. Alors le naturel, c'est resté dans le langage, hein, soyez naturel, c'est ce que vous m'avez dit au début de l'émission quand je m'installais à cette place.
Vous ai dit, vous allez oublier le micro.
Oui, je l'ai oublié. Et c'est précisément ça, être naturel, c'est-à-dire c'est oublier de se poser même la question, c'est très exactement ça. Alors, donc le naturel...
C'est s'oublier soi.
C'est s'oublier soi, oui. Et c'est au moment où on
la
s'oublie soi...
La posture sociale qu'on voudrait avoir dans le regard de l'autre.
Exactement. Et donc, c'est ne pas être affecté. Le contraire du naturel, c'est l'affectation pour les moralistes classiques. Donc, c'est ne pas être affecté. Et donc, c'est aussi être empreint de grâce. Le naturel fait qu'on est gracieux. C'est-à-dire qu'on ne on pense pas à ce qu'on fait, on pense pas à ce qu'on est. Et c'est au moment même où on n'y pense pas qu'on est précisément ce qu'on est. Alors, un exemple de sportif, puisque c'est la question, alors les peintres, bon, ça serait encore autre chose, j'en parle dans le livre, mais je crois que Federer est l'exemple type d'un jeu qui se fonde sur le naturel. Si vous regardez Federer dans ses grands matchs, on dirait qu'il vole sur le terrain, et surtout on dirait qu'il ne fait aucun effort, c'est-à-dire on dirait que tout est dans une fluidité absolue. Et le morceau qu'on a écouté tout à l'heure, l'interprétation du rondo de Beethoven, c'est aussi un exemple extraordinaire de jeu naturel. On voit la fluidité extraordinaire de l'interprétation de Richter notamment, mais aussi de Rostropovitch, et on les voit aussi tous les deux, on les imagine s'amusant et se renvoyant la balle comme deux gamins émerveillés devant cette œuvre de Beethoven. Donc on a affaire effectivement à une recherche de fluidité, d'absence d'effort, puisque c'est tout.
Mais ça, c'est la grâce aussi.
Mais oui, mais le naturel
c'est
vient
le
de
don,
la grâce.
Le génie.
Le naturel vient des réflexions renaissantes sur la grâce, en réalité. Parce que la grâce, c'est aussi... Bon, alors la grâce, on peut dire, c'est une qualité esthétique, mais c'est plus que ça pour les penseurs de la Renaissance et notamment pour Castiglione. La grâce, c'est justement cet état dans lequel je suis absolument ce que je suis sans aucun décalage. Donc la grâce, c'est toujours aussi une expression de mon individualité. Et ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que des théories de la grâce à la Renaissance... ont surgi les théories du style personnel, puisque au fond, c'est à la Renaissance que s'impose cette idée que le style de l'artiste doit être individuel. Et justement, le lien entre les deux théories, qui ont l'air, à première vue, quand on en parle comme ça, on se dit que c'est deux choses très différentes, en fait, elles sont liées parce que la grâce, c'est quelque chose qu'on ne peut pas obtenir par volonté de l'obtenir, ou par effort pour l'obtenir. Et de la même façon, le style, si c'est véritablement votre style, il doit, d'une certaine manière, couler de source, ce qui veut dire qu'il faut commencer par imiter pour l'obtenir. C'est-à-dire, il faut commencer par un travail de dépersonnalisation. Il faut renoncer à tous ces travers, à toutes ces idiosyncrasies, pour, par ce travail de dépersonnalisation...
On en revient à Ulysse,
Et progressivement surgit, à un moment donné, votre manière propre. Au contraire, si on cherche à avoir du style, qu'est-ce qu'on fait? On tombe dans l'affectation de style, c'est-à-dire ce que la Renaissance appelle le maniérisme. Le maniérisme, c'est ça, c'est la recherche de la prouesse stylistique à tout prix qui conduit, en fait, simplement à copier des modèles et à s'approprier les trouvailles des autres.
Mais la grâce, elle vous est octroyée ou pas? Les dieux, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, ils vous l'ont donné ou pas? Et j'ai cru comprendre, Claude Romano, que la vérité sur soi-même, c'était une décision et c'était pas une grâce. Alors, je voudrais que vous parliez de la princesse de Clèves.
Ça dépend
et de votre analyse de la princesse de Clèves.
Oui, alors ça dépend qui, hein, ça dépend qui, quelle théorie on examine. Il y a beaucoup, les théories modernes disent ça, disent qu'il faut se choisir soi-même, devenir unique, etc. Mais si on va voir du côté de ces théories du naturel à la Renaissance, on s'aperçoit au contraire que ce qu'on dit, c'est qu'il faut surtout pas chercher l'originalité ou chercher à atteindre cet idéal, c'est la meilleure manière d'échouer.
Mais il ne faut pas se laisser aller non plus.
Il faut
la chercher, cette vérité sur soi-même.
Il faut une sorte de détachement, peut-être, ou de nonchalance, c'est le mot qu'emploie Montaigne. Il faut une forme de nonchalance qui n'est pas le laisser aller simplement consistant à laisser tout aller à l'abandon, si vous voulez, mais qui est une forme de détachement à l'égard du but de devenir soi-même. Si vous êtes détaché à l'égard de ce but, peut-être parviendrez-vous à un moment donné, au moins, c'est pas quelque chose qu'on puisse maintenir comme ça de manière continue, mais peut-être parviendrez-vous à un moment donné à ce moment, on peut dire de grâce, de coïncidence avec soi, ou on peut employer différents vocabulaires pour décrire ça.
Je voudrais parler d'une autre dimension qui est très importante dans votre livre, c'est celui de la coïncidence de ses propres pensées avec sa propre existence. Il y a beaucoup de philosophes qui ont parlé de la quête de soi, de définir la vérité, mais il y en a peu qui soient allés jusqu'au bout de leur propre élucidation de la vérité, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Et finalement, Kleist, l'un des plus grands romantiques, mais l'un des plus grands philosophes aussi, est peut-être allé jusqu'au bout de sa propre tentative de recherche de la vérité, et il s'est suicidé avec son amoureuse, très jeune. Est-ce que c'est ça l'acmé de la recherche de la vérité ?
Ça, je ne me prononcerai pas là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est que Kleist est une figure tragique dans cette histoire, parce que il a reposé finalement à l'époque romantique, même s'il n'est pas lui-même à proprement parler un romantique, il a reposé cette question du naturel qui était la question de la Renaissance, mais dans un contexte totalement différent dans lequel finalement le naturel n'apparaît plus que comme une sorte d'idéal, de chimère inaccessible. Alors ses modèles, c'est l'animal, qui bien sûr est toujours naturel, dit-il, toujours en adéquation avec lui-même, mais c'est aussi la marionnette, parce que on atteint avec la marionnette à l'absence totale de tout narcissisme, c'est-à-dire de toute façon de se contempler soi-même, etc. Et c'est justement parce que la marionnette n'a pas ces caractéristiques-là, dit Kleist, qu'elle est absolument gracieuse. Alors, chez Kleist, il y a un côté tragique, parce qu'effectivement, on voit qu'il a toujours cherché, mais dans une sorte de conflit intérieur profond, cet idéal-là, et qu'à la fin, il a pensé, peut-être, qu'il n'était accessible, au fond, que par la mort.
Dernière question, Claude Romano. Pourquoi la princesse de Clèves décide-t-elle de ne pas céder à ses inclinations amoureuses? Et décide-t-elle de rester fidèle à son mari qu'elle n'aime pas? Est-ce qu'elle est proche d'elle-même? Est-ce qu'elle est elle-même? Est-ce qu'elle est fidèle à elle-même?
Je pense que la princesse de Clèves est une figure très forte de cette recherche de l'accord avec soi. Et qu'effectivement, la décision finale de la princesse, qui a été interprétée de 100 manières différentes, on lui a reproché des tas de choses, sa froideur, son orgueil, son absence de capacité à s'abandonner à sa passion. Enfin, on lui a fait tous les reproches possibles et imaginables. Mais quand on regarde le texte, en fait, que dit la princesse? Elle dit que elle ne peut pas renoncer à son amour pour le duc de Nemours, mais qu'en même temps, elle a une aspiration au repos à laquelle elle ne peut pas renoncer non plus. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend une décision qui est en fait, en un sens, contradictoire. Elle préfère se sacrifier elle-même pour ne pas sacrifier quelque chose d'elle-même, d'une certaine manière. C'est assez complexe. C'est-à-dire qu'elle préfère se sacrifier elle-même, ne pas épouser le duc de Nemours, pour ne pas renoncer à ce désir de repos. Qu'est-ce qu'elle appelle repos? C'est tout le problème. Elle appelle repos pas seulement une sorte de lâche renoncement, elle appelle repos, en fait, ce que Montaigne appelait l'assiette de l'existence. C'est-à-dire cet état où vous êtes justement en accord avec vous-même. Et pour ça, elle est prête même à renoncer, effectivement, à sa passion amoureuse, enfin plutôt à renoncer à la vivre, parce qu'elle ne renonce pas à sa passion amoureuse, en réalité.
Nous sommes toutes et tous des princesses de Clèves. Merci infiniment, Claude Romano. Je rappelle que votre livre sort en ce moment même. Il s'intitule « Être soi-même, une autre histoire de la philosophie ». Et bonne nouvelle, il paraît directement en poche dans la collection Folio. Il ne coûte que 15,90 €. Merci, Claude Romano. Vous connaissez François et The Atlas Mountains? Si vous connaissez, écoutez « Promesse d'un visage ».
J'aime pas la beauté, tes sourcils surbaissés, d'où semblent couler des ténèbres. Tes yeux, quoique très noirs, m'inspirent tes pensées, qui ne sont pas du tout funèbres.
Promesse d'un visage. Promesse d'un visage.
Tes yeux qui sont d'accord avec tes noirs cheveux, avec ta crinière élastique. Tes yeux languissamment me disent si tu veux, amant de la muse plastique. Suivre l'espoir qu'en toi nous avons excité, et tous les goûts que tu professes. Tu pourras constater notre véracité, depuis le nombril jusqu'aux fesses.
Promesse d'un visage. Promesse d'un visage.
Au bout de deux bossins bien lourds, de larges médailles de bronze, et sous un ventre uni, doux comme le velours, bistré comme la peau d'un bonze. Une riche toison qui vraiment est la sœur de cette énorme chevelure, souple et frisée qui t'égale en épaisseur, nuit sans étoiles, nuit obscure.
Promesse d'un visage.
Deux à la technique ce soir, il y a Johanna Gabric et Fabrice Desmas que je remercie, ainsi que Anne-Sophie Dazard, Élodie Royer et Antoine Joubert qui m'ont aidé à préparer cette émission, ainsi que Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux.